Les 8h06 sur Radio Panique, vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube et je suis en compagnie de mes invités. On parlera donc ces prochaines 45 minutes, je pense, du projet Amazonie immersive, culture, soutenabilité et système régénératif. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios Chananui Uni Queen de l'état d'Acre en Amazonie. Bem-vindo. Bon dia.
Auch.
Et pour l'accompagner, Mathilde et Paul, donc participants à ce projet rassemblant plusieurs organisations autour de l'Amazonie. Et donc ce projet, c'est un mini-festival, on va dire, avec de nombreuses activités qui auront lieu ce week-end. Bienvenue à tous les trois.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu ce matin. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, d'abord expliquer la présence de Chananui Uni Queen de l'état d'Acre en Amazonie. Quelle est la raison de sa venue en Europe et en Belgique plus particulièrement? Je pense que ça fait suite à différentes rencontres qui ont déjà eu lieu en France, en Suisse, au Portugal. Et on serait ravis d'en savoir un peu plus sur ce qui vous amène ici en Europe.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathilde Evrard, je suis française et j'ai le grand honneur aujourd'hui donc de faire partie du collectif Amazonie Immersive et de deux d'accompagner donc Chananui Uni Queen du peuple Uni Queen qui est un peuple donc d'Amazonie brésilienne qui se trouve au cœur de l'Acre. Donc, qui est le cœur, on va dire, de l'Amazonie au Brésil, où se trouvent encore de nombreux peuples qu'on dit traditionnels, originels, dont Nui fait partie. Et donc, aujourd'hui, Nui est à nos côtés donc, pour venir partager la voix de la forêt. Entre autres, donc j'ai eu l'honneur moi de connaître ce peuple donc en 2015 quand je commençais à travailler par la coopération internationale donc au Brésil. Et moi, ça a été un contact vraiment bouleversant dans ma vie qui a changé beaucoup de perspectives, beaucoup de choses. Et c'est l'heure à laquelle j'ai commencé à me dédier au peuple premier, à l'étude de leurs connaissances, de leur sagesse et comment on peut les comprendre à l'œil de notre monde moderne aussi, comment on peut s'enrichir avec leur mode de vie. Et donc dans ce cadre, donc pour ma part, ça fait quelques années, donc j'articule des mouvements donc entre les tribus, l'Amazonie et le reste du monde. Et donc ça a été un grand honneur pour moi d'avoir en compagnie de Paul et de nombreux autres partenaires, donc il fait partie d'Amazonie Immersive, donc eu cette initiative donc de créer un mouvement en Europe avec des événements dont le premier donc phare va se dérouler donc ce week-end donc à Bruxelles du 1 au 3. Et donc à l'occasion nous avons décidé donc d'inviter Nui donc pour venir partager vraiment en direct donc la voix de la forêt aux Bruxellois et pas que, puisque Nui vient pour 2 mois en Europe ensuite donc partager ses connaissances et des réflexions aussi sur ce qui se passe dans le monde et comment on pourrait commencer à ouvrir un peu l'esprit, les perspectives, notre relation à la réalité, à la nature, au collectif aussi, à la communauté, pour réapprendre ensemble, construire ensemble des solutions réellement positives et durables pour le monde.
Auch. Bonjour à todos, né? Quero primeiramente dar bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? E quero primeiramente me apresentar, né? Eu sou Nui Uni Queen, né? Sou líder do meu povo, povo Uni Queen da aldeia do Caucho, e também sou um tchaná, né? Sou um mensageiro também do cântico Uni Queen. E pela segunda vez estou aqui em Bruxelas, né, para poder participar desse encontro da Amazônia Immersive. E aqui o meu objetivo é de poder trazer a mensagem da Amazônia, né, aos irmãos que realmente né, querem saber um pouco como está passando, né, dentro da Amazônia, e trazer essa mensagem do meu povo, né, da floresta, como um representante também, né, do grupo Tchanauri, e estou aqui para poder também correspondê-lo algumas perguntas que for da minha autonomia.
Bonjour à tous. Donc je premièrement donc je voudrais énormément vous remercier à tous pour être là, pour nous écouter, pour donner l'espace donc de premièrement me présenter. Je m'appelle Tchana Nui Honey Queen. Je suis représentante donc de ma communauté qui s'appelle la communauté du Caucho, qui se trouve dans l'état du Acre au Brésil, peuple Honey Queen. Je suis là, donc j'ai l'honneur pour la seconde fois dans ma vie donc d'être présent en Europe. Donc je viens d'arriver et donc notamment donc pour participer au projet qui se concrétise en événement donc Amazonie immersive donc cette semaine à Bruxelles. Et entre autres, donc, par là, de partager la voix de mon peuple, partager la voix de la forêt, répondre aussi aux questions, aux initiatives, aux projets qui ont à voir avec l'Amazonie, et pouvoir aussi donc, répondre aux questions qui sont de mon autonomie sur ce qui se passe par chez moi et dans le monde.
Et du coup, quels sont les enjeux que vous voulez porter à l'écoute du monde, aux Européens que vous allez rencontrer? Quelle est la réalité que vous voulez partager avec aujourd'hui avec les auditeurs et auditrices de Radio Panique? Quel est le message que vous portez?
Então, né, eu estou aqui para poder compartilhar, né, um pouco também da preservação, né, da biodiversidade da Amazônia, né, da vida, né, da arte também, da música, e falar um pouco, né, da realidade dos povos indígenas também da Amazônia, né. Então, tudo isso para mim é o principal objetivo de poder estar aqui, né, divulgar como que hoje o povo indígena, né, está habitado na Amazônia.
Donc le principal message que j'ai aujourd'hui à partager avec le monde, c'est un message d'appel à la protection de la biodiversité, de la culture, de l'art, des sagesses traditionnelles et des modes de vie aussi qui habitent mon peuple et les peuples originels, et ce en partage aussi du coup avec les auditeurs, avec qui est présent aujourd'hui.
Et ces dernières années, est-ce qu'il y a eu aussi un changement dans votre réalité par rapport justement à la biodiversité? Ici en Europe, on a eu beaucoup d'échos, des incendies qu'il y a pu y avoir et de la destruction de l'Amazonie. Comment ça vous affecte, vous, en tant que peuple?
Então, né, sim, com certeza, né, teve grandes mudanças, né, no, vamos dizer, na floresta, né, porque houve vários incêndios na floresta amazônica, e também o governo brasileiro, né, realmente está tendo um grande preconceito também, né, com os povos indígenas também, né, querendo tirar o direito dos povos originários, e isso para a gente é uma preocupação, né, de poder preservar, né, a floresta, né, preservar os animais, as águas e também as, né, as plantas, né, que existem, né, dentro da floresta amazônica.
Alors oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Donc dernièrement, donc sur les dernières années, on beaucoup d'incendies, des changements au niveau du climat, de l'eau, de notre alimentation, et surtout ce dont on souffre énormément depuis des années, mais plus que jamais actuellement, c'est beaucoup de persécutions et de manque de prise en considération du gouvernement brésilien à notre égard, notamment beaucoup de discrimination, à vrai dire, par rapport au peuple premier, alors même que nous sommes des peuples qui, depuis toujours, vivent en harmonie et en connexion et en protection de la nature qui les entoure, de la biodiversité, des animaux, des plantes, de la faune, de la flore. Et c'est finalement ça qu'on aimerait pouvoir continuer à préserver comme mode de vie et comme modèle aussi à partager avec d'autres systèmes, avec l'Occident.
Et justement, ça nous semble aussi effectivement ici en Europe, quand on défend l'écologie, on est aussi. Est-ce qu'il y a une façon de faire qui est particulière au peuple premier comme le vôtre et qui vous semble ne pas être la même quand vous rencontrez des activistes environnementaux, écologistes ici en Europe?
Bom, sim, né? A gente dá de perceber, né? Diferença, porque hoje a gente vê que, né, a Europa ela tá mais um pouco dedicada, né, que o país brasileiro. É porque hoje no Brasil, né, hoje não tem tanta valorização, né, como tem na Europa, né? Então hoje eu vejo que o povo europeu ele dá mais um pouco de valor, né, e reconhece mais, né, esse, né, vamos dizer, a ecologia, né?
Alors, ce que je perçois, c'est que donc même s'il y a de grandes différences donc territoriales et de l'environnement, donc finalement, on est dans un moment où le peuple européen se sent en tout cas, semble être plus touché, plus concerné par les questions écologiques et environnementales que notre peuple brésilien, si ce n'est le peuple, le gouvernement en tout cas, puisque je vois ici, de ce que je connais, donc des initiatives croissantes dans ce sens de commencer à considérer l'écologie, faire attention donc à notre impact. Alors qu'au Brésil, très peu de politiques vont dans ce sens, au contraire, elles vont dans le sens inverse. Et peu de personnes finalement considèrent et connaissent aussi notre travail de protection, de connexion complète au niveau de la nature. Et je me permets, moi, à ce sujet, de ramener une donnée que peu de personnes connaissent, mais qu'il est important de notifier. Donc aujourd'hui, il est considéré que les peuples premiers, comme on les appelle, donc au niveau mondial, représentent moins de 5% de la population totale. Mais il était comprouvé qu'ils préserveraient plus de 80% de notre biodiversité planétaire. Et moi, personnellement, qui vis donc en contact direct donc avec des peuples comme les peuples Huni-Kuin, c'est vraiment cette réflexion et cette réalité que je vois sur le terrain. Des gens qui ont réussi à continuer à incarner, et c'est pour ça qu'ils sont encore aussi vivants dans leur mode de vie traditionnel, né, malgré des siècles de tentatives de contact forcé avec des fois le monde moderne, ou même ce qui serait des violences à leur égard sur le territoire, sur la culture, sur la langue, sur les traditions et les modes de vie. Finalement, c'est vraiment des gens qui ont cette intégrité, cette connexion déjà très, très profonde avec la nature, qui est vue non pas comme quelque chose d'extérieur, un objet, mais vraiment une part d'eux-mêmes. Né? Et combien cela, en fait, pour eux, du coup, les connecte avec un travail complet, en fait, en permanence avec la nature dont ils se sentent faire partie. Et donc, c'est des gens qui du réveil au matin jusqu'au soir, travaille dans cette harmonie aussi. Donc, et tout reflète ce contact. Donc, c'est des gens qui travaillent énormément et en même temps qui aiment faire ça, qui font ça en joie, en harmonie, en famille, et qui aimeraient des fois juste pouvoir continuer à le faire, donc en paix, en respect, avec des outils de travail aussi qui ont besoin d'évoluer, puisque c'est par exemple l'état du Acre dont Noé fait partie, on dit que c'est un thermomètre des changements climatiques au niveau de l'Amazonie brésilienne. On voit les impacts directs sur la question de l'eau qui est polluée, les fleuves qui sont secs aujourd'hui. Du coup, des fleuves secs, c'est plus d'alimentation comme l'alimentation traditionnelle du poisson. Donc, une chaîne de conséquences pour lesquelles ils ont besoin de nouveaux outils de travail qui passent selon eux. Donc ils ont cette conscience par des possibilités de technologie, des possibilités de connaissance de nouvelles méthodes de par exemple même de production comme la permaculture, la bioconstruction, donc des évolutions que on a en notre sein, donc en Occident, et auxquelles ils aimeraient avoir accès dans le sens positif du terme. Et donc c'est aussi l'une des réalités donc de notre initiative Amazonie immersive, c'est comment commencer à joindre le meilleur de ce qui existe encore donc dans le monde, donc des peuples originaires dont on connaît peu la réalité, mais qui sont encore là au Brésil, donc sont actuellement encore plus de 300 ethnies vivantes, donc 300 cultures, 300 relations au monde et à la nature, qui veulent être en contact avec le monde dans ce sens positif du terme, donc d'échanges de connaissances, d'échanges de savoir, d'échanges de technologie, de culture, parce qu'ils ont conscience qu'aussi on a un moment tournant de l'humanité où on peut plus rester les bras croisés, où il est important d'échanger pour apprendre ensemble. Et puis on a à l'image de cette initiative Amazonie immersive, de plus en plus de personnes du monde entier, porteurs de projets, entrepreneurs, chercheurs, personnes aussi des technologies, de l'art, de l'expression, qui sont aussi un appel de commencer à travailler des choses plus vraies, plus connectantes, qui peuvent aussi unir leurs forces. Donc ça, c'est aussi ce qu'on a appris à faire, donc ensemble avec Paul et toute notre équipe, c'est commencer à réapprendre à travailler en collectif, comme l'image de la communauté, donc des peuples premiers, hein, ce travail de groupe, où tout le monde finalement donne le meilleur qu'il peut, son talent, sa connaissance, le met à service et commence à multiplier les impacts. Donc voilà, c'était un petit aparté.
Merci, et justement j'avais une question, après on peut revenir sur justement ce travail en communauté, mais je me demandais aussi quels étaient les liens avec les autres communautés, en fait, les autres populations et peuples indigènes qu'il peut y avoir ailleurs en Amazonie, dans d'autres pays. Ici, c'est l'état d'Acre au Brésil, donc, mais avec les peuples amazoniens, plutôt en Équateur ou ailleurs. Est-ce qu'il y a une connexion?
Sim, com certeza, né? No Acre a gente tem essa, né? Vamos dizer, essa parceria, né, com outros povos da nossa região, né? Porque dentro do Acre são 12 etnias, né? São 12 etnias e cada um tem uma forma de, né, vamos dizer, de preservar a cultura, né, de preservar a floresta, né, e sempre são diferentes, né, aqui eu represento o povo Runicuim, mas dentro do Acre tem, né, algumas etnias como Yanawá, Puyanawa, Nukini, né, Xamandawa, Xaninawa e demais, né, etnias que estão, e a gente sempre tem essa parceria, né? Tem, vamos dizer, essa ligação, um povo com o outro. A gente respeita muito, né, a realidade de cada povo.
Donc, oui, effectivement. Donc, par exemple, rien qu'au niveau donc, de l'état où se trouve ma tribu, Honey Queen, Il se trouve plus de 12 ethnies, différentes. Et on est en contact proche, en relation aussi de respect et d'apprentissage mutuel, parce que pour nous c'est important, né, pour être en harmonie entre tous les peuples et apprendre aussi ensemble. Donc il a cité une série de d'ethnies, dont les Yawanawa, Puyanawa, Nokini, Shawanawa. Donc ce sont des noms d'ethnies de cette région d'Amazonie. De même, voilà, c'est cette réflexion. Donc comme il le dit, ils sont en relation de partage, d'échange de connaissances aussi sur des cultures, sur des modes de production alimentaire, sur ces réflexions sur les changements climatiques. Nous, on a déjà participé à des rencontres de peuples pour réfléchir ensemble à comment ce qui se passe dans leur territoire, ce qui se passe au niveau des changements climatiques et quelles sont les solutions positives qu'on peut travailler ensemble. Et c'est aussi donc ce reflet, c'est à partir de cet apprentissage avec eux qu'on, nous, en tant qu'Amazonie immersive, on a réfléchi aussi notre action ici en Europe, dont Paul, moi et beaucoup de personnes de notre équipe font tissu, mais aussi d'autres, personnes du Brésil, entre autres. Et cette idée, comment finalement traduire cette mode d'action collective aussi avec notre mode de vie, plus occidental en Europe, aussi sous format d'événements. Donc c'est ce qu'on a essayé de ce qu'on va partager finalement ce week-end, donc du 1 au 3, avec des activités, avec des rencontres avec une grande diversité, puisque il y aura des échanges avec Nui, sur la culture, sur le mode de vie, sur l'environnement, sur la relation à la nature. Il va y avoir plusieurs artistes, notamment du Brésil, mais aussi d'Europe, qui vont partager aussi des modes d'art, des modes d'expression qui sont connectés avec l'art indigène, avec le mode d'expression connecté à l'essence. Il va y avoir des workshops d'alimentation d'alimentation et de relation aux produits naturels, culinaires d'Amazonie, qui sont très riches aussi. C'est quelque chose dont on pourrait parler énormément, des heures même. La richesse alimentaire, de plantes, de biocosmétiques aussi naturelles qui existent là-bas, que ces peuples utilisent et ont envie de partager avec nous. Donc il y aura aussi des workshops de biocosmétiques, et puis beaucoup d'échanges aussi, c'est notre perspective, c'est l'idée comment on peut commencer à s'inviter, se connaître, avec des porteurs de projets aussi, des gens qui ont des initiatives ou l'appel d'initiatives de ce type, pour commencer à créer cette réalité ensemble de partage, comme ces peuples nous apprennent au quotidien, en tout cas en leur présence.
Je ne sais pas si Paul veut rajouter quelque chose par rapport à comment ça va se passer ce week-end. J'aurais encore plein de questions à poser aussi, mais puisqu'on peut parler plus spécifiquement de comment ça va se passer, de comment vous avez aussi peut-être organisé ça.
Bien sûr, merci Zoé. Alors j'aimerais déjà présenter le projet un tout petit peu dans son ensemble. Amazonie Immersive, c'est quoi aujourd'hui? C'est un réseau mondial en construction. Un réseau mondial qui invite à l'immersion, à la création et à la participation collective au cœur d'une réalité qui vient parler à notre propre nature, l'Amazonie. 3 jours d'événements participatifs unissant des acteurs et porteurs de projets du monde entier, déployant leur énergie pour valoriser et mettre en partage la riche culture amazonienne. On est aujourd'hui, sur cette première édition, plus de 40 organisations à impact positif en Amazonie. On a la fierté et l'honneur de pouvoir présenter le travail d'associations, d'entreprises, d'ONG, d'organismes d'État brésiliens, parce qu'il y a aujourd'hui aussi le gouvernement et le consulat qui font partie de ce collectif, et on est tous ensemble en train de dialoguer, en train d'exposer les problèmes actuels à travers les faits, proposer des solutions et les partager avec vous. On a été inspiré, entre autres, d'une grande designer brésilienne, Maria Fernanda Paes de Barros, qui, 2 ans en arrière, a fait une œuvre d'art incroyable en faisant participer des communautés indigènes, comme sur toutes ses œuvres d'art. Cette œuvre d'art, c'est l'arbre Liancatu. L'arbre Liancatu, c'est une œuvre magnifique, monumentale, de 3,50 m de hauteur, qui sera d'ailleurs montrée à tous les visiteurs de cet événement à Bruxelles. Peut-être que je peux parler du lieu un tout petit peu.
Oui, tout à fait. Où ça aura lieu
Amazon Immersive à Bruxelles, ça aura lieu dans le centre culturel TOC-CEC. TOC-CEC, ça se trouve au 143 Chaussée de Vavre, dans le quartier d'Ischel. C'est une nouvelle galerie d'art et centre culturel qui se trouve dans l'ancienne maison de Meuldre. Je pense que c'est un bâtiment fantastique pour commencer cette tournée européenne, parce que oui, on propose 3 jours immersifs à Bruxelles, mais après on part en tournée dans toute l'Europe pour diffuser ce message. Bruxelles, capitale politique de l'Europe, on a vraiment choisi ce lieu symbolique pour commencer cette tournée dans TOC-CEC. TOC-CEC, c'est aussi le nouveau centre culturel des initiatives engagées en Europe.
Parce que j'ai vu qu'il y avait certains événements qui étaient sur invitation, est-ce que tout le monde peut venir? Est-ce qu'il y a des moments partagés, des moments où on peut juste arriver et participer? Vous avez parlé d'ateliers culinaires aussi.
Alors tout à fait, on est divisé sur 3 journées, le 1er, 2 et 3 avril. Pendant ces 3 journées, on n'aura hélas pas la possibilité d'ouvrir les portes au grand public pour simplement arriver et pouvoir entrer. On travaille uniquement sur réservation par rapport à l'exposition d'art, à l'immersion, au workshop. On a des workshops immersifs gastronomiques, culturels, de danse, de chant, d'expérience, d'échange. Des workshops de cosmétiques, où vous aurez la possibilité justement de découvrir toutes ces matières premières naturelles et voir comment les utiliser, quoi en faire, d'huiles essentielles, d'artisanat, d'art, de design. Il y a vraiment une expérience sensorielle complète.
Et du coup, qu'est-ce que vous attendez de ces 3 journées? Est-ce que c'est plus un événement public ou vous voulez montrer à qui est intéressé la richesse justement de la culture amazonienne, ou c'est aussi tisser des liens et pouvoir renforcer ce réseau et ce collectif?
Alors Amazonie Immersive, on a en effet ces deux prétentions, et d'échanger avec le grand public et d'inviter tous les acteurs particuliers ou professionnels à collaborer dans notre projet. Amazonie Immersive, c'est à la fois la grande initiative mondiale actuelle pour préserver l'Amazonie, mais c'est aussi un exemple pour nous Européens. Je suis moi-même français, j'ai habité 10 ans au Brésil. Et cette rencontre avec les peuples premiers, c'est une inspiration fantastique. Peut-être un exemple aussi pour nous, pour réfléchir à nos actions de tous les jours, leurs conséquences, comment on consomme, comment on évolue dans ce monde d'aujourd'hui, avec toutes les problématiques qu'on a.
Et justement, j'avais une question en vous entendant tout à l'heure. Parler, c'est peut-être une question plus directe. Nous, ici, en Europe, on a une tendance à vouloir défendre la nature, mais comme quelque chose qui nous est complètement extérieur, alors que que les peuples premiers qui peuplent l'Amazonie, elles ont une relation de symbiose un peu avec la forêt. Comment on peut articuler les deux, justement, où parfois notre conception de la nature comme quelque chose d'extérieur implique des politiques qui expulsent les populations qui vivent dans ces endroits pour justement, sous prétexte de défendre la nature, de faire des zones, des réserves naturelles qui ne sont plus des lieux de vie et d'échange entre l'humain et le vivant non humain, comme on peut dire.
Sim, né? Então é importante, né, isso que hoje, né, tanto vamos dizer o brasileiro como o povo europeu, né, que possa preservar mais, né, a natureza, né? Tem que a gente sabe que aqui é um clima diferente, né? Se realmente eu não responder bem aqui a pergunta, a Matilde pode ajudar mais o Chay Paulo, né? Mas o que eu deixo a mensagem aqui é que possamos cada vez, vamos dizer, plantar mais, né? Plantar mais, né? Reflorestar mais a natureza, né? Zelar do que tem dentro dela e não destruir, né? Então, porque as plantas também, elas são vida, né? Se a gente vai derrubando e matando as plantas, né? As árvores, é como se fosse um de nós também, né? Então elas precisam de água, precisam de ar, né? Precisa ter uma boa terra para que possa a planta, né, a árvore que dá toda a sustentabilidade para a terra, para não dar erosão e, né, também é onde está a preservação, né, de alguns animais que habitam nela, né? Então, por isso que eu peço assim a todo, né, vamos dizer, o ser humano que existe nesse planeta Terra, que vamos preservar a terra e cuidar melhor, né, das árvores. Mathilde pode ajudar.
Alors, donc je suis dans le fond pas certain d'avoir compris la question, et vous pouvez me corriger si jamais il y a des choses à approfondir, mais ce que je comprends, moi, c'est que on vient de réalités aujourd'hui très différentes, de relations à la nature très différentes, de climat, de mode de vie très différents. Néanmoins, moi, ce que je vois et ce qui devrait tous commencer à nous reconnecter, c'est vraiment l'urgence de reconsidérer notre relation à la nature, vraiment d'en prendre soin, comme si chaque plante, chaque arbre, finalement, est une vie comme nous le sommes. Et de commencer à réfléchir à chacune de nos actions, nos consommations, nos destructions, comme si c'était nous que nous détruisions, finalement. Comme si c'était un frère, une sœur, quelqu'un de notre famille. Et nous, c'est la relation qu'on a au monde, et c'est celle qui aussi nous préserve, finalement, et nous donne donc cette énergie de connexion permanente avec la nature. Et c'est ce que je souhaite vraiment, moi, à chaque être vivant, chaque être humain, chaque personne de cette humanité aujourd'hui, de commencer à se relationner vraiment en union, en fusion avec l'environnement. Et donc, si je puisse me permettre un aparté, donc voilà, finalement, oui, je pense que ça a plutôt bien répondu à la question. Mais c'est marrant parce que c'est assez fréquent, moi, en tant qu'accompagnatrice, traductrice de peuples premiers, donc dans différents endroits du monde. C'est des questions assez récurrentes qu'on a, même de réflexion. Quel est votre contact avec la nature, ou est-ce que vous sentiez, enfin, pouvez-vous décrire une relation d'unité avec la nature, ou faites-vous de la télépathie? En fait, c'est des questions que littéralement ils comprennent, mais qui, donc, ils ne comprennent pas forcément le concept. Parce que vraiment, comme vous l'aviez dit, c'est des personnes, c'est des peuples qui naissent, ou même tous leurs traits culturels, leurs traits linguistiques, leur travail, leur culture indique, et qu'on prouve finalement vraiment une relation de complète harmonie avec la nature, où ils ne se sentent pas séparés, où ils se sentent partie d'elle, où ils se sentent en permanente relation de co-apprentissage, de co-relation. Et donc, c'est difficile pour eux, des fois, de répondre à des questions où, pour nous, on voit toutes les choses séparées. Ah, la nature est une chose, moi j'en suis une autre, l'écologie est autre chose, l'alimentation saine, etc. Ça, c'est quelque chose de notre système, finalement, qu'on apprend beaucoup, rien que, bah, par exemple, à l'école, etc., à l'université. Donc, on a une matière qui est indépendante de l'autre, c'est des maths, c'est de la géologie, c'est de la science pour eux. Et moi, j'étudie pas mal de la linguistique et des systèmes éducationnels, donc par exemple Hatchaquin, donc qui est la langue originelle du peuple Huniquin, et donc combien ce sont des détails qui en disent beaucoup sur une relation à la réalité. Par exemple, l'éducation Huniquin, ils ont des phénomènes qui sont tous imbriqués les uns aux autres et qui font partie d'une même réalité. Donc il y a le phénomène de la nature qui est impliqué avec le phénomène de la santé, qui a à voir avec le phénomène de l'expression corporelle, qui est connecté au phénomène de la culture, et vice versa, en fait. Tout est une seule chose. Et c'est aussi cet univers, finalement, que nous, moi en tout cas, et je pense beaucoup de notre collectif, ont réappris dans notre process de vie, ont trouvé d'un coup beaucoup plus de sens à leur vie, à leur connaissance, à leur talent, à cet appel de servir à quelque chose, hein, par rapport à qui on est, où on est, pourquoi on est là, en 2022, à vivre ce qu'on est en train de vivre, donner un sens à tout ça, et voir que quand on commence à casser un peu les barrières et les concepts si rigides des fois qu'on a appris dans notre société, en fait, tout devient beaucoup plus possible, connectant, réel, vrai, grand aussi. Et c'est aussi cette manière, d'un coup, naturelle de se tourner vers l'autre, de commencer à dire, bah, en fait, moi, j'ai une connaissance, un talent, et toi, qu'est-ce que tu as à offrir au monde? Quel est le meilleur de toi? Et si on commençait à connecter, comprendre qu'il n'y a pas de qui que ce soit, ou il n'y a pas un projet ou une idée qui est supérieure ou meilleure que l'autre, mais on est tous des outils au service de quelque chose. Et c'est comme ça que ces peuples aussi vivent, pour moi, cette harmonie en matière. Parce que, par exemple, c'est quelque chose que je demandais au début... c'était moi, par exemple, l'organisation sociale d'un peuple premier, mais en tant que collectif, en tant que société, ce sont quand même des sociétés de plusieurs centaines de personnes en moyenne. Et donc, je me posais la question, comment vous vivez en harmonie? Parce qu'on ne voit pas de règles, on ne voit pas, il n'y a pas des lois, il n'y a pas en apparence du moins. Il n'y a pas toute de rigidité comme des fois on a l'impression d'avoir besoin dans nos villes, etc. Et donc, je leur demandais, mais comment vous organisez votre société? Comment, par exemple, Nui, donc qui est Chana, donc lui, c'est-à-dire c'est un oiseau voyageur qui partage donc les sagesses par le chant, donc en voyageant dans le monde. Puis il y a d'autres leaders, chacun sa position, son talent. Et donc je demandais comment ça s'organise, et nous, ils nous répondent toujours. Finalement, on est invité juste à être qui on est depuis l'enfance. On a l'espace pour grandir à partir de qui on est, en demandant juste d'être le maximum qui on est. Et à partir de là, naturellement, du coup, il y a notre élan naturel, notre talent, notre appel, là, cet endroit où tout se connecte aussi, notre mission peut-être, qui se révèle naturellement et qui s'emboîte dans la société. Et donc forcément, d'un coup, on est invité à du coup prendre une position qui n'est pas une position pour être dans une position, qui est par exemple donc dans le cas de Nui, il a senti cet appel donc par rapport au chant, à l'organisation des connaissances du chant, du passage des traditions par la voix. Et donc il a la possibilité, l'espace d'organiser, donc de devenir donc organisateur, leader d'une compétence, et non pas pour garder la compétence pour lui ou être le premier, mais justement pour organiser la compétence, la partager au maximum, et dès que possible apprendre d'autres compétences, donc faire des cycles d'apprentissage. Et donc Amazon Immersive a voulu essayer de retranscrire aussi cette méthode d'apprentissage permanent. Ou finalement, même dans un workshop de cuisine, comme on dit, ou de danse, c'est un univers de relations, un univers de connaissances aussi qui va s'impliquer. Parce que, entre autres, Nui va être là, va être présent dans tous les workshops. Et pour nous, tout est une même chose. En fait, tout va être connecté. Va à partir d'un savoir, né, qui pourrait être donc avec la présence de designers qui vont être là, d'artistes, comment finalement on redéfinit tout un rapport à la réalité, né, qui aussi passe par notre bien-être, notre propre talent, notre propre expression. Et donc vous me posiez un peu cette question, Paul a répondu. Pour nous, ce type d'événement, c'est pas juste offrir quelque chose extérieur, différent à quelqu'un d'extérieur à nous, mais c'est comment on peut s'inclure aussi dans cette réalité, se rendre compte qu'on fait tous partie de ce qui se passe aussi en Amazonie, que ça a à voir avec notre propre réalité, qu'on peut apprendre aussi énormément de cette réalité qui a l'air distante en apparence, mais qui en dit beaucoup sur qui on est, sur ce qu'on a perdu comme valeur, comme relation au monde, et comment on peut commencer à penser d'autres manières de faire, de vivre, de travailler, de se relationner, donc par exemple à ces systèmes organisationnels, et comment s'inspirer de ça pour nos entreprises, pour nos ONG, pour nos expressions artistiques, et dans un univers, pour moi, que je vois où il y a de la place pour tout le monde. C'est ce que j'ai appris beaucoup avec les peuples premiers, c'est qu'ils sont inclusifs. Tout le monde est le bienvenu, parce qu'on a besoin de tout sur cette planète. Donc il y a de la place pour tout le monde, et c'est le moment de commencer peut-être, hein. Je pense que ça, c'est assez clair au niveau mondial, mais de ce que le monde nous montre comme signaux, de commencer à travailler ensemble, et puis l'inverse. Et donc ça, c'est un message vraiment très récurrent des peuples, mais par rapport à ce qu'on passe au niveau mondial, même de leur prophétie, de leur sagesse. Et donc, c'est vraiment un appel aussi. Et moi, je suis depuis des années à leur contact. On a fait d'autres tournées déjà avec d'autres leaders, par ici en Europe et au Brésil, et c'est vraiment quelque chose de très récurrent. C'est quand est-ce qu'on va commencer enfin à travailler ensemble, arrêter de tout séparer pour comprendre que il y a du positif à faire et du positif pour tout le monde, parce que quand on est dans le positif collectif, ça revient au positif individuel, et quand on prend l'espace de faire notre mieux individuel, naturellement on sert le collectif.
Et la question, c'est, je me dis, est-ce que c'est possible, ou est-ce qu'on n'est pas trop engagé dans une autre façon de faire qui serait incompatible? Comment vous voyez ça, le fait d'être venu déjà plusieurs que ça fait plusieurs années que vous êtes dans cette démarche justement d'ouverture? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui bloque encore pour que ça change radicalement?
Bonne question. C'est une question qui est autant mon moteur, je pense, que des fois ma stupéfaction. Mais ce que je vois, c'est que les choses bougent. Surtout quand d'un coup je connais des personnes comme Paul, comme toutes les personnes qui font partie de notre collectif aujourd'hui, des personnes qui sont en train d'innover, d'entreprendre sur vraiment des modèles de travailler, de faire différemment, de même par exemple que la galerie Talk où on fait ce premier partenariat, ce premier événement, donc qui est un espace vraiment ultra innovant sur la relation à l'art d'impact, les cultures, les traditions, vraiment au-delà des frontières. Donc moi, c'est des choses qui me comprouvent qu'il y a des changements. Alors toujours la question, c'est est-ce qu'ils sont assez rapides ou pas. Je vois que rien n'est par hasard aussi, c'est ce qu'on apprend avec les peuples. Donc tout ce qu'on a passé là récemment, donc entre les pandémies, la guerre, etc., pour moi c'est quand même des secousses que le monde nous montre pour qu'on commence vraiment à se questionner sur les bonnes choses. Et je vois de plus en plus de personnes finalement passer un peu dans les deux extrêmes aussi, mais se fermer d'autant plus, ou au contraire s'ouvrir pour commencer à toucher quelque chose de plus vrai. Et ça, c'est des choses que les propres peuples partagent assez fréquemment, même dans leur lecture de l'histoire de l'humanité, dans les lectures des prophéties dont ils font partie. Finalement, ils disent que on est à un moment tournant l'humanité, et que c'est à nous de commencer vraiment à l'orienter, de décider de sentir acteur de celle-ci, pour l'orienter au sens positif du terme. Donc après le grand tournant, le changement, c'est quoi? C'est pour moi accepter de comprendre que de toute façon on n'est pas là pour la contrôler, cette réalité, mais pour en être acteur. Et c'est peut-être l'inverse de ce qu'on a appris en société. Et puis c'est un débat très ample, mais voilà, c'est un moment où on nous demande, je pense, d'accepter, voilà, de lâcher un peu prise sur ce qu'on se pensait acquis, et de s'ouvrir à d'autres perspectives, à d'autres possibilités, comme ce qu'on est en train d'essayer de construire, donc directement avec des, en lien avec des peuples premiers, avec des formats de travail différents, aussi comme le collectif Amazonie Immersive, avec des types d'événements aussi beaucoup plus ouverts et différents dans leur proposition, comme donc ce week-end à Bruxelles du 1 au 3 et toute la tournée qu'on va faire, donc comme Paul l'a dit, au travers de l'Europe, donc notamment la semaine prochaine, donc nord de France, ensuite dans la région de la Drôme et dans les Alpes, ensuite en Suisse, ensuite à Paris, ensuite au Portugal, donc tout un mouvement où finalement c'est même pas nous qui décidons, on va là aussi où il y a des pôles attracteurs, mais des gens qui sentent cet appel, et, parce qu'on a aussi cette ouverture d'esprit de se sentir invité où les choses commencent à bouger. Et donc voilà, on est à disposition, en tout cas je pense que ça c'est un des messages. Et si je puisse me permettre, par rapport à l'événement, donc vous demandez, c'est vraiment en soi ouvert à tous, si ce n'est pas public, c'est pour des questions en fait relationnelles au Covid, etc., où il y a encore des limitations sur les capacités de la salle, de sécurité. Donc on est obligé de faire sous format d'événements privés, de workshops, etc., mais à des différents prix, tout est accessible finalement, pour que ce soit donc tout public. Et donc durant les workshops et autour des workshops, ou même des moments plus culinaires, il y a des happy hours aussi pour être plus des moments de partage, de conversation entre nous, ou même directement avec nous. Oui, il va être à disposition, il a envie de parler avec nous tous, un à un, yeux dans les yeux. Finalement, il y aura aussi donc toute cette partie d'exposition, donc il y a une exposition d'œuvres d'art, dont l'arbre Yankatu, donc qui est cette œuvre d'art phare, donc de notre exposition, mais il va y avoir de nombreux autres artistes aussi, enfin des œuvres très 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 remarquables, des photographies. Il va y avoir aussi une partie immersive audiovisuelle, donc ça qui est de la Floresta TV, donc avec qui moi je donc que j'ai co-créé, donc avec un cinéaste brésilien, donc on est sur le terrain, donc on filme. On met à disposition, à vrai dire, nos talents en audiovisuel à service de la voix des peuples premiers. Donc pour ça, nous, on a créé une TV et toute une série de registres, films, photos qu'on met à disposition en service donc, de cette voix très forte, très puissante de la forêt reste du monde. Donc il va y avoir cette partie d'expérience aussi audiovisuelle, technologique, dans laquelle on croit aussi, mais quitte à ce que ces technologies existe, autant les mettre à service de quelque chose de positif pour l'humanité. Donc voilà, c'est multi-secteur, multi-tout, et on serait très heureux vraiment d'avoir de tous les profils, de toutes les idées. Est-ce qu'on a cette ouverture aussi de... rien n'est acquis non plus pour nous, donc on a beaucoup à apprendre tous les jours de tout le monde, de toutes les interactions.
Pour répondre à la question aussi, je pense que ce qui a changé aujourd'hui, c'est que l'urgence climatique est visible pour tous, tous les jours, à tous les instants. On était pendant longtemps dans une philosophie un peu utopique, à la recherche du profit infini, en se basant sur cette idée que les ressources naturelles étaient infinies, qu'on pourrait éternellement les exploiter, s'enrichir, augmenter les profits, réduire les coûts. Mais aujourd'hui, on vit une autre réalité. Il faut s'adapter. À travers des initiatives comme Amazonie Immersive, on propose simplement d'informer, de dialoguer, d'échanger, de débattre sur ce sujet, tout en proposant une série de solutions pour avancer tous ensemble. Amazonie Immersive est ouvert à vous tous pour vous joindre à nous, que ce soit présentiellement à Bruxelles, mais aussi virtuellement, parce que oui, on a développé une application disponible pour tout le monde, pour suivre en live tout ce qui se passe dans l'événement, mais aussi une programmation de tous les membres actuels du réseau. Il y aura par exemple 30 salles virtuelles différentes avec des programmations informatives, culturelles, commerciales, de tout type. Nous vous invitons réellement à vous joindre à nous, à rentrer dans cette immersion, à découvrir la culture amazonienne du Brésil et d'Amérique du Sud de manière générale.
Ah. Merci beaucoup. Il y aura encore plein de choses à dire, juste peut-être pour les auditeurs, auditrices qui voudraient vous rejoindre justement. Est-ce qu'il y a une adresse, un site web, une adresse mail, un endroit où avoir toutes les infos pour pouvoir s'inscrire et vous rejoindre?
Alors oui, on a tout ça. Je vous invite simplement à nous rejoindre sur les réseaux sociaux où toutes les informations sont exposées. Par exemple, notre page Facebook avec tous les liens pour les différents événements, toute la programmation des journées, la possibilité de s'inscrire et de communiquer avec nous en direct.
Bien, merci beaucoup à tous les trois. Est-ce qu'un dernier petit message avant de rendre l'antenne?
Au-delà de vous remercier vraiment, vous inviter au maximum du coup à cette co-participation, cette co-création vraiment unique et cette grande première donc qui se passe historiquement donc à Bruxelles, très symbolique pour nous donc ce week-end, né, et qui plus est qui a cette partie aussi interactive numérique, donc vraiment ouverte à tout le monde, né. Voilà, moi mon message c'est beaucoup de gratitude, comme les peuples nous le disent toujours, donc d'avoir cet espace, né, que ce soit encore possible d'avoir ce type d'interaction, d'échange. Pour moi c'est toujours un grand honneur, une fierté d'être avec des peuples premiers ici en Europe, qui plus est face au contexte qu'on est en train de passer, donc se rendre compte aussi de cette opportunité, voilà, et de répéter combien nous on est ouvert aussi à des idées, à des propositions, à d'autres passages sur la radio, TV, parce que c'est pas tous les jours non plus, mais c'est un grand voyage. Nous, il y a voyagé plus de 3 jours, donc depuis sa communauté jusqu'à Paris pour venir être parmi nous en pleine donc quand même pandémie, guerre, et qu'est-ce qui va se passer le mois prochain, on ne sait pas, mais voilà, c'est pas tous les jours. Et donc terminer, conclure, moi je pense la meilleure manière, déjà qu'on parle d'immersion en Amazonie, je pense que le mieux qu'on a à vous offrir c'est une petite immersion musicale, donc de la part de Nui qui avait envie de nous partager un de ses chants traditionnels.
Auxi, auxi, então encerrando aqui, né, essa pequena entrevista aqui, né, eu quero deixar aqui uma mensagem também do povo Runicuim, uma música, né, e de Uxibu aí na guiança, né, de tudo aí que vai acontecer, e auxi, 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 sirim, 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 puxari, 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 ha, 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 hará. Ha, 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 hará. Ush, ush. Essa música, ela dá o título de Skawatan Kayaway. Skawatan Kayaway é a transformação, né, da cura do planeta, né? Ela fala na terra, fala na água, fala nos animais e fala em todos os elementos da natureza, né?
Donc cette musique qui s'appelle Skawatan Kayaway, qui parle de la transformation de la planète à partir de tous ces éléments, l'eau, la terre, l'aliment. Cette transformation qu'on est en train de passer et que je place sous le signe de Yushibu, le grand esprit, mais aussi l'esprit collectif dans la langue originelle Hachakuin.
Jobahana ibubu, Jobahana ibubu. Hana e bubabatã, Hana e bubabatã, Iskawatan kayawai, Iskawatan kayawai, kayawai kiki, kayawai kiki. Jobamana e bubu, Joba mana e bubu, mana e bububatã, Skawatan kayawai, 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 kiki. Ush, ush. Jobané Bobo. Jobané Bobo. Né Bobo Botan. Iskawatan Kayaway. 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 Kiki. Jobané Bobo. Jobané Bobo. Né Bobo Botan. Iskawatan Kayaway, 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 Kiki. Juba Bari Bubu. Juba Bari Bubu. Bari Bubu Batan. Iskawatan Kayaway, 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 Kiki. Joba bari bubu, joba bari bubu, bari bubu batan, iskawatan kayaway, 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 kiki. Joba usha bubu, joba usha bubu, usha bubu batan, iskawatan kayaway, kayaway, Kayaway Kiki. Joba usha bubu. Joba usha bubu. Usha bubu batan. Iskawatan kayaway. Kayaway. Kayaway Kiki. Joba bishi bubu. Joba bishi bubu. Bishi bubu batan, iskawatan kayaway, 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 kiki. Joba bishi bubu, joba bishi bubu, bishi bubu batan, iskawatan kayaway, 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 kiki. Ush, ush. Haus, haus, por sancionão, por Pantone Maricaunei, por buaca já. Hã, 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 hã.
E? Muito obrigada. Merci beaucoup. On a un peu dépassé. J'espère que l'émission d'après ne nous en voudra pas d'avoir coupé un peu son début. Mais ça en valait la peine. Muito obrigada.
Obrigada, merci.
Merci à toi, Zoé.
Et bois sorte con seu festival. Bonne chance pour Amazonie. Merci ce week-end. Et on vous laisse en compagnie de Radio Mukambo, qui ne nous en voudra pas de ce petit rabiot de 4 minutes, je pense. Merci beaucoup à vous trois et bonne journée à tous les auditeurs, auditrices de Radio Panique. Bonne journée, à la semaine prochaine.